Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Les jours passent. Charles-André continue toujours à travailler avec son père et à écrire aussi. Il rêve, c'est d'être un grand écrivain et de laisser cet emploi de régisseur caissier. Ce n'est absolument pas intéressant et il se demande comment fait son père pour travailler aussi longtemps comme ça. Sa vie lui semble monotone et son salaire ne lui apporte aucune joie car il n'a pas le temps de le dépenser. Puis dépenser à quoi? La drogue, il a fini. Les femmes, il s'en méfie, car il ne veut pas se marier pour le moment. Il trouve ridicule sa sœur qui cherche à se marier. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il s'est éloigné d'elle. Mais heureusement que Charles-André a l'écriture. Tous les soirs après son travail, il va s'enfermer dans sa chambre pour écrire jusqu'à l'heure du repas. Là, au moins, il est chez lui, dans son monde à lui. Il écrit l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un portrait dans le journal. Elle a fait le centre de sa vie. C'est une femme modeste qui vit en faisant des ménages chez des petits bourgeois. Elle est très sérieuse, pas belle dans les 30 ans. Sa vie, aux yeux du monde, semble bien rangée et normale. Mais à l'intérieur d'elle, elle brûle de passion. Elle a fait encadrer le portrait, mis sur le buffet, au-dessus du buffet du séjour. Et lorsqu'elle est seule, elle passe des heures à le contempler. Les jours passent, et au fil des jours, elle ne vit plus, elle vit de plus en plus avec lui, lui parle, lui dit ses peines, ses joies. C'est comme si c'était une personne qui est veuve et parle à son défunt. En tout cas, c'est ce que croiraient les gens qui la verraient. Mais pas elle, c'est comme si le jeune homme vivait avec elle. Elle lui dit tout, ce qu'elle a fait, ses projets, lui demande son avis. La femme vit dans une folie douce qui ne nuit à personne et que personne ne fait attention. Elle a arrêté tout plaisir, toute sortie. Son seul désir après son travail, c'est de rentrer chez elle et de le retrouver. Des fois, dans une conversation, sans faire attention, elle dit « Mon compagnon me dirait pas. On serait heureux. Ce n'est pas son genre. » Ceci est très rare et les gens ne portent pas à conséquence. Le temps passe. Sans qu'elle s'en rende compte, elle est appelée Madame Veuve. Mais pas elle, son amour est bien vivant. Et Jean a inventé toute une histoire sur sa vie. Qu'elle était mariée à un militaire qui est mort à Sedan, qu'il a laissé sans ressources. Elle lui est restée fidèle. Le temps passe. Un jour, elle apprend, par hasard dans le journal, qu'il sera en visite dans la ville et logera à tel hôtel. Et tout excitée, elle décide de le voir. Elle a tellement été habituée à lui parler durant toutes ces années qu'elle n'a pas peur. Le jour de son arrivée, elle va à l'hôtel, demande au concierge où se trouve monsieur. Surpris, il lui demande ce qu'elle lui veut. Et elle lui dit qu'elle est une personne très intime. Avec hésitation, il lui donne le numéro de la chambre. Elle y va, décidée, sûre d'elle, de son amour. Elle va lui dire qu'elle est amoureuse depuis de nombreuses années. Elle a mis sa plus belle robe. C'est bien coiffé, se trouve élégante. Enfin, après tant d'années, elle va le voir, lui parler. Il frappe à la porte de la chambre. Entrez. Elle entre. Et là, elle voit un gros homme, petit à cheveux blancs, le visage jovial. Il la voit, s'approche d'elle et lui dit « Vous désirez, ma bonne dame ? J'aimerais parler à monsieur. Je suis monsieur. Vous êtes son père ? Non, malheureusement, mon père est mort. Vous l'avez connu ? Tout à coup, elle se sent toute drôle. Ses rêves s'effondrent. Après tant d'années, le jeune homme est devenu un gros monsieur qui ressemble à une grenouille. Elle a les larmes aux yeux et se sent toute retournée. L'homme lui demande « Vous êtes venu pourquoi ?» Elle lui dit en partant « Rien, rien, une erreur. » Toutes ces années passées comme ça, toutes ces années à aimer. Mais une fois chez elle, en regardant le portrait, elle l'aime toujours, malgré tout, parce qu'il ne change pas. Elle se dit qu'elle l'a aimé durant toutes ces années, mais qu'elle l'a gardé jeune jusqu'à présent. Alors que si elle l'avait connu, elle l'aurait vu vieillir. Maintenant qu'elle a vu la vérité en face, que va-t-elle devenir ? Elle ne peut pas continuer à vivre ainsi. Elle aimerait déchirer le portrait, mais ne le peut pas, car elle l'aime encore. Elle a une douleur, comme si elle devenait vraiment veuve. Et comme plus rien ne la rattache à la vie, elle se laisse aller. Une grande mélancolie la prend, mange peu, dort peu, se sent lasse. Un vide a remplacé son amour. Un matin, elle ne se lève plus pour aller travailler. Elle n'a plus envie de rien. Semaine plus tard, des voisins inquiets vont entrer chez elle en fracassant la porte. Et l'ont vue sans vie dans son lit. Elle s'est laissée mourir tout doucement. Personne n'a vu l'amour qu'elle a eu. Comme elle était sans famille, le propriétaire, pour se payer le loyer manquant, a vendu toutes les affaires, même le portrait. Il a été acheté par une jeune fille sage et romanesque qu'il a trouvé fort beau. Elle l'a mise dans sa chambre, au-dessus de sa cheminée. Et, comme elle le regarde, ne va-t-elle pas l'aimer comme l'autre ? La jeune fille vit seule, n'a pas d'amis, travaille dans un atelier de couture, rêve plus qu'elle ne vit. Le portrait du tableau est beau, il séduit à travers les âges. Il a l'âge de sa beauté. La jeune fille ne va-t-elle pas y succomber et vivre comme l'autre ? Voilà l'histoire qu'a écrit Charles André. Un après-midi, Charles André, après son travail, s'en retourne chez ses parents. Comme il fait beau, il rentre à pied en longeant les quais. Les gens qu'il croise sont peu nombreux, car c'est encore l'heure où ils sont à leur travail. Charles André a quitté plus tôt. Il en profite que son père est absent. Il a perdu l'habitude de flâner et de ne pas rentrer tout de suite. Là, automatiquement, ses pas le mènent à sa chambre, le seul refuge qu'il a. Il n'a aucune relation et ses désirs physiques sont retombés en enfance. Comme cela arrive de temps en temps dans la vie d'un homme, on croit que la vie sexuelle est très agitée et beaucoup plus que celle d'une femme. En réalité, c'est faux. On n'est plus calme que la femme, mais cela ne se voit pas. Car la femme cache son excitation à cause de son éducation et pour ne pas être traitée de putain. Sa vie sexuelle est plus longue que celle d'un homme. Et la vie rangée que l'on impose aux femmes est contre leur nature. C'est ce qui les détraque nerveusement et mentalement. Les homosexuels qui doivent maîtriser leurs désirs sexuels sont détraqués de la même façon. Donc Charles André s'en retourne chez ses parents, pensant à la scène qu'il va écrire. Pardonnez-moi, monsieur. Il sursaute et revient à la réalité. Un petit homme vieux, tout maigre, mais bien habillé, est en face de lui.
Il me semble vous reconnaître.
Moi ?
Oui, vous. À Paris, nous sommes vus. Nous avons passé un moment ensemble fort agréable dans un terrain vague.
Charles André se souvient. Oui, c'est un de ces vieux qu'il a eu comme client.
Il prend peur.
Vous faites erreur.
Oh que non. On ne peut pas oublier une personne aussi agréable. Je veux même vous décrire toute votre intimité.
Charles André rougit,
se sauve. Mais malheureusement, il voit que l'autre le suit.
Que veut-il ce cochon ? Il veut me faire chanter ? Parler à ma famille ? Quelle honte ! Il retourne et il voit qu'il continue à le suivre.
Je ne peux pas rentrer chez moi. Il marche de plus en plus vite.
Vois qu'il n'y a pas de fiacre.
Mais non, il n'y en a jamais quand il le faut.
Il marche de plus en plus vite.
Pour se débarrasser de ce vieux, il entre dans un café.
Il dit au cafetier, un gros homme jovial. Pouvez-vous me faire passer par une autre porte ? Je suis suivi.
Oh, je vois, un mari jaloux. Venez.
Il le mène derrière son comptoir. Il fait passer par l'arrière-salle.
Il va ouvrir une porte.
Qui donne dans une cour.
Où j'ouvre la porte, là, au fond de la cour. Et elle donne à côté.
Merci, il lui donne la pièce et traverse la cour pour ouvrir la porte. Il se trouve dans une rue déserte. Il continue sa marche.
Ouf, j'ai dû le sommer.
Il reprend son chemin qui longe les quais de Saône. Puisque sa famille habite le long de la Saône, il marche d'un pas tranquille.
Ouf, j'ai échappé belle.
Arrivé chez ses parents, il va dans sa chambre, un peu essoufflé. Deux heures plus tard, après avoir écrit, il se sent un peu fatigué. Il se lève pour aller à la fenêtre. Il fait nuit, mais les réverbères sont éclairés. Il fait doux. Il a ouvert la fenêtre et regarde en se penchant. Voit son réverbère le vieil homme de tout à l'heure. Il se retourne, se retire en vitesse de la fenêtre. L'homme regarde dans sa direction et lui entend le bruit de la fenêtre qui s'est ouverte. Vite, il referme en vitesse la fenêtre. La peur, la colère lui donne une grande excitation et le fait marcher dans la chambre. Il m'a suivi tout de même. Qu'est-ce qu'il me veut? Créer un scandale? Me faire chanter? Si mon père apprend ce que j'ai fait à Paris, je suis perdu. Comment faire? Dois-je aller le voir? Lui dire de s'en aller? Comment faire pour me débarrasser de ce vieux? Et s'il me prenait l'idée de sonner, de demander un entretien à mon père et de se présenter comme un de mes amis? Quelle honte! Il retourne à la fenêtre. Il est toujours là. Il ne va tout de même pas rester toute la nuit ici. Il cherche à me narguer ou à me faire peur. Il veut que je descende pour que j'aille avec lui dans un coin, lui faire une pipe. Que faire? Je ne mets tout de même pas à avoir constamment près de moi cette épée de Damoclès qui va m'empêcher de vivre, de penser. Tant que je l'aurai, je ne pourrai pas écrire. Je ne pourrai rien faire. Non, c'est impossible. On a frappé à la porte. Mon Dieu, on vient m'annoncer qu'il me demande. Entrez.
C'est la bonne. Monsieur, le dîner est servi. Bien, je descends.
Durant toute la soirée, il tremble chaque fois que la porte s'ouvre. Il passe une nuit pleine de cauchemars où il est poursuivi par le vieux. Le lendemain matin, en se levant, il va à la fenêtre et voit que le vieux est toujours au même endroit. Il est furieux. Il exagère, mais a peur. Que me veut-il ? Il hésite un moment avant de sortir pour son travail et se décide de sortir tout de même. Une fois dehors, il part en grande enjambée comme s'il n'avait pas vu le vieux sur le trottoir d'en face. Au bout d'un moment, il se retourne et voit que le vieux, un peu plus loin, il le suit. Il est furieux. Ils se disent que cela vaut mieux qu'il le suive au lieu qu'il aille sonner chez les parents. Quelle honte ce serait! Je m'en vais tout de même pas tourner en rond toute la matinée. Autant l'attendre et lui demander ce qu'il veut, qu'on en finisse. Il attend que le vieux soit près de lui. La rue est déserte, heureusement. Le vieux est près de lui, essoufflé, fatigué. Il a marché vite pour ne pas le perdre. Jean-André lui dit: vous voulez me suivre? Vous allez me suivre longtemps et m'espionner longtemps? De quoi? J'ai l'air, moi. Le vieux ne dit rien. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Le vieux hausse les épaules et lui dit: j'aimerais bien, c'est faire ce que l'on a fait. Non, mais ça ne va pas. Tu me prends pour qui? C'est fini tout ça. Pour un beau garçon que j'ai envie de sucer. Et si je refuse? Le vieux baisse la tête et lui dit: serai patient, tu accepteras bien un jour. Je t'interdis de rester près de chez moi. Ça m'énerve. La rue appartient à tous. Et puis,
Je ne fais rien de mal. Je ne gêne personne. Si, moi, ça me gêne. Alors je te prie, c'est de t'en aller et de ne plus le suivre. Allez, laisse-moi. Et Charles-André s'éloigne en marchant vite. Malheureusement, il voit que le vieux continue à le suivre. Il ne va pas aller jusqu'à mon bureau. Quelle honte! Il attend le vieux encore une fois. Et lui dit, tu continues à me suivre, je vais au commissariat. Le vieux lui dit, j'en dirai tout. Charles-André a les nerfs à vif. Écoute, tu veux me sucer, tu vas me sucer. Attends-moi ici, ce soir à 20h. En attendant, fous-moi la paix. Là, tu as ce que tu voulais. Alors, c'est oui, 20h? Le vieux lui dit, d'accord. Et il laisse Charles-André s'éloigner. Durant toute la journée, Charles-André est furieux. Et à 19h30, après le dîner, il sort de chez ses parents pour aller rejoindre le vieux. Il fait déjà nuit. Je vais en finir de façon définitive. Tiens. Il arrive où il a donné rendez-vous au vieux. Eh bien, il est là, ce salaud. Charles-André s'approche de lui et lui demande. Tu as l'argent? Le vieux sort de sa poche un billet et le lui donne. Que ça? Encore? Le vieux, surpris, lui en donne un autre en lui disant. J'en ai plus. Charles-André lui dit, furieux. Bon, alors, on y va? On va où? Il regarde autour de lui. Et voit, là, vers la berge, une vieille baraque d'ouvriers en bois qui semble abandonnée. On descend en bas? Le vieux le suit. Arrivé en bas, ils vont vers la cabane. Charles-André pousse du coude la porte. Qui arrivait à s'ouvrir. Ils entrent. Cabane où l'on déposait quelques outils, des pelles, des pioches, des brouettes, etc. Charles-André ferme la porte. C'est le noir. Ils ne voient que le haut de leur visage à cause de la lumière des réverbères du quai. Charles-André est en face du vieux. Et lui demande, alors, tu veux sucer? C'est ça que tu veux, hein? Il se déculotte. Prends son sexe mou à la main et lui dit, tiens, suce-le, vas-y, prends, c'est ce que tu veux, vieux salaud. Le vieux dit tout bas, je t'aime, moi. Eh bien, vas-y, puisque tu veux ça, que ça. D'une main libre, il fait pencher la tête du vieux vers son sexe. Le vieux, tout excité, enlève son dentier qu'il met dans son mouchoir. Il n'a pas de dents. Sans dents, il est encore plus moche. Vas-y, fais vite. Le vieux ouvre la bouche. Charles-André lui enfile le sexe dans la bouche et l'enfonce. Le vieux manque de s'étrangler. Charles-André lui tient la tête pour éviter qu'il se dégage. Ce qui fait que le vieux a le sexe enfoncé dans la bouche qui l'étrangle et l'empêche de respirer. Il lui plaque la tête très fortement contre lui. Ah, tu aimes ça, hein, mon vieux? C'est bon, hein, la quéquette à Charles-André. De l'autre main, il lui pince le nez. Ce qui fait que le vieux ne peut plus respirer ni par la bouche, à cause du sexe, ni par le nez. Le vieux cherche à se débarrasser de cette emprise avec ses mains. Mais Charles-André est plus fort, plus vigoureux que lui.
Charles André au bout d'un moment. Tu vas t'arrêter de gesticuler comme ça, vieux con. Tout son poids, en gardant son sexe dans sa bouche et en maintenant pincé le nez, il fait tomber à la renverse le vieux. Pour l'éviter de se défendre avec ses bras. Charles André est en sueur, la colère. Il ne veut plus, il ne sait plus ce qu'il fait. Le vieux est sous lui qui se défend. Il appuie son corps sur le sien, tout en maintenant le nez pincé et le sexe dans la bouche. Le vieux a la tête rouge, violâtré. Il manque de respiration et en plus le sexe est trop long dans la gorge lui donne envie de vomir. Il ne peut pas bouger le corps, ni les jambes, ni la tête. Il est pris dans un étau. Jean-Landry souffle, appuie contre le vieux, son corps. Tu vas bientôt crever, salaud. Tu vas bientôt crever. Il lui donne des coups, serre. Puis, au bout d'un moment, il sent plus de résistance. Il se soulève. Le vieux ne bouge plus. Le visage rouge, terrorisé, les yeux fixes. Qui semble sortir de la tête. Il sort de son sexe et de la bouche du mort, un sexe plein de salive. Se relève. Le vieux ne bouge plus. Charles André, en sueur, nettoie son sexe avec son mouchoir, se rhabille. Il sort de la cabane et ferme la porte. Il se sauve en courant, remonte au quai, court pendant un moment et s'arrête. Il voit qu'il a les mains sales et les vêtements aussi. Il décide de rentrer. Rentré chez ses parents, sans être vu, ils sont encore au salon, il est 23h, va dans sa chambre, se déshabille, va dans la salle de bain pour se laver, puis revient. Décide de jeter ses vêtements demain matin et se couche furieux. Celui-là ne l'a pas raté. Quel vieux salaud! Il est mort en faisant ce qu'il voulait faire. Il était coriace et dire que par sa faute, mon sexe a été dans la bouche d'un mort. Malheureusement, dans la nuit, il revit sans arrêt cette scène. Revoit le visage du vieux, sa bouche qui se ferme sur son sexe. Il sent le corps du vieux contre lui. Cela le dégoûte et en même temps, il se rend compte de l'horreur de son geste. Il se réveille plusieurs fois en sueur. Lorsque le matin est là, il n'est pas dans son état normal. Il a honte de ce qu'il a fait. Ça le chagrine. Il est dégrisé de sa colère et se rend compte de l'énormité de son geste. Il vient de tuer un homme, encore une fois. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois, c'est d'une façon horrible, inhumaine, abominable, physique. Il se demande comment il a pu faire une chose pareille de cette façon. Suis-je un monstre? Quelle horreur, tuer quelqu'un en se servant de son sexe. Et je n'ai aucune excuse, je l'ai fait sciemment, dans la colère, oui, mais en sachant ce que je faisais. Il reste au lit en réfléchissant à tout ça. Comment se fait-il que moi, un être civilisé, cultivé, qui aime écrire, qui est calme, ait pu faire une chose pareille? Comment se fait-il que mon cerveau ait pu inventer une chose pareille? La limite du civilisé entre le bestial est-elle si mince? L'homme cache-t-il un monstre? Est-ce sa vraie nature? Alors comment a-t-il fait pour se civiliser et créer toutes ces belles choses et ces livres, ces lois? La bonté est-elle une invention? Comment l'homme a-t-il pu faire de bonnes et belles choses tout en étant un monstre? Qui pousse l'homme à la civilité, à la bonté, à la connaissance? S'il est une chose monstrueuse capable d'inventer la pire des horreurs, comment le bien peut cohabiter avec le mal? Comment l'homme peut-il comprendre le bien s'il est un monstre? Qu'est-ce qui me dirige? Ce doit être une chose qui est ni bien ni mal, mais qui me cherche qu'à m'auto-défendre. Car si cette chose était l'une ou l'autre, elle ne pourrait pas nous défendre efficacement. Ce qui fait que le criminel peut être gracié et compris, parce que son acte, le plus horrible qui soit, a été provoqué, programmé par un endroit du cerveau qui ne sait pas ce que c'est que la morale, le remords. Le remords, de toute façon, ne vient qu'après. Il doit être provoqué par la conscience morale du cerveau. Conscience morale qui est hors loi, hors religion, mais qui nous vient de la sensibilité. Une sensibilité qui, au début, n'apportait que la peur, et après la conscience de l'acte, puis ensuite s'est rajouté le remords et la conscience morale. Ces deux parties distinctes de l'esprit, l'on nous fait agir pour se préserver, et l'autre fait comprendre les actes et ce qui nous entoure. Et la morale dans tout ça? La morale, c'est sélectionner les actes qui sont bons des autres, et ce grâce à la partie du cerveau conscience. Qu'est-ce qu'un acte bon? C'est d'abord celui qui ne nous apporte pas de remords, qui ne nuit ni aux autres ni à soi. Mais malheureusement, il y a l'autre partie du cerveau qui ne sait qu'une chose, qu'il a été conçu que pour cette chose, qui, pour préserver l'être et ses intérêts, est prêt à tout pour le défendre. La morale, il ne connaît pas. Avec ces deux systèmes dans l'homme, y a-t-il place en Dieu? Y en a-t-il besoin? Normalement, non. Nous sommes suffisamment équipés. C'est ce que l'on croit. Mais pour que la partie du cerveau qui est morale puisse fonctionner, il faut l'éduquer. Car l'enfant, sans éducation, ne vit que d'instinct, et il lui faudra beaucoup plus de temps et d'expérience pour qu'il soit moral. Or, pour aller plus vite, on l'éduque. Pour aussi aller plus vite, on l'éduque avec l'aide de la religion. Un Dieu qui est au-dessus des hommes, qui dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ces commandements sont plus facilement acceptés que s'ils étaient donnés par un simple mortel comme eux. C'est pour cela que les sociétés modernes ont des difficultés à faire appliquer leurs lois, parce qu'elles sont décrétées par des humains mortels et qui plus est, on peut leur faire changer, modifier ce qu'ils avaient prévu. Tandis qu'un Dieu, on ne peut pas l'influencer. L'on est obligé d'accepter ce qu'il a décidé de nous faire faire ou interdire. Charles-André soupire et se dit « Si j'ai tué, d'après ce que je viens de penser, je ne suis pas vraiment responsable et je ne faisais que me défendre. Contre quoi? Contre le chantage? Et lui, le vieux, en me suivant, a agi comment? Pourquoi ?» son moi défensif agissait parce que le vieux était... parce que pour le vieux, il était vital d'avoir cet acte sexuel. Il ne l'aurait pas, s'il n'avait pas eu, cela l'aurait rendu malade. D'ailleurs, il était déjà presque malade. La preuve, il a passé des heures en bas de chez moi. Et me courir après, comme il a fait. Donc, nos deux instincts défensifs se sont rencontrés. Et un a gagné l'autre, parce qu'il était plus fort. Si le vieux était plus jeune, il aurait peut-être gagné. Il a perdu, et j'y suis pour rien. J'espère que personne ne saura rien de cette histoire. Il soupire et veut se lever en se disant qu'il ne doit plus y penser. Un après-midi, Apolline se promène. Il fait beau et a envie de se détendre. Sa blancheur et sa mâcheur la fait ressembler à une petite fille. Ses yeux frivoles en sont encore plus beaux. Mademoiselle Apolline! Elle se retourne et voit monsieur le marquis de Saint-Véran. Il courir après. Il arrive vers elle, tout essoufflé, lui dit « Pardonnez-moi, mais je viens de loin. Et comme j'aimerais vous parler, je vous écoute, monsieur le marquis. Bien, voilà. Si vous voulez, je vous invite à prendre le thé dans le salon de mon hôtel. Nous pourrions parler plus tranquillement. » Elle hésite. En tout bien, tout honneur. Oui, bien sûr. Il appelle un fiacre et l'amène à son hôtel, place Bellecour. J'ai pas encore les clés de l'hôtel particulier que je viens d'acheter à votre père. Descend du fiacre. Et là, il la fait entrer dans son hôtel, un grand hôtel de luxe. Apolline est agréablement surprise. On le mène au salon où se trouvent des gens attablés, buvant et mangeant des gâteaux. Un petit orchestre joue en sourdine. On les mène à une table pour deux. Un maître d'hôtel va vers eux. Vous désirez, monsieur, madame ? Il leur montre la carte. Le marquis de Saint-Véran dit à Apolline, « Choisissez. Ceci est affaire de femme. Merci. » Elle commande une tarte aux amandes, une charlotte et du thé. « J'ai faim cet après-midi. » Le marquis lui dit, « Comme madame. » Le maître d'hôtel s'éloigne. Apolline lui dit, « Je raffole de gâteaux. J'aime tout ce qui est sucré. » Marquis lui dit, « Vous êtes une petite fille. » Pas si petite que cela. Le serveur vient leur apporter et leur sert les commandes. Une fois qu'il s'est éloigné, le marquis dit, « Mangeons. » Ils boivent et mangent. Le marquis lui dit, « Je sais,
Ce n'est pas facile. J'ai à vous dire une chose. Voilà. Je vous trouve charmante, délicate et sûre de vous. Vous me plaisez énormément. Pauline sourit. Je souhaiterais, c'est que vous acceptiez de devenir ma femme. J'en serais très heureux.
Pauline ne sait quoi répondre. Il lui dit,
vous seriez très heureuse avec moi. J'ai des biens, beaucoup de biens. Vous vivriez dans un manoir. J'ai des domestiques. Vous n'auriez rien à faire qu'à penser à vous. Il vous suffira que de demander pour qu'on aille faire tous vos désirs. Je suis une personne simple qui n'a besoin de rien. Ma seule joie sera de vous voir heureuse. Vous faire tout ce que vous voudrez. Ma fortune est à vous. Elle n'est pas mince. Ma famille est très intime avec l'empereur et d'une grande partie des terrains de Paris, Lyon, Bordeaux nous appartient. Nous avons des actions dans les chemins de fer. J'ai plus l'âge pour me marier, mais mon corps est près de vous. Et puis, mon père, encore près de vous à 20 ans. Voilà. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous demande de réfléchir et vous me donnerez une réponse.
Pauline se dit qu'il aurait dû attendre qu'elle ait fini de manger ce délicieux gâteau. Maintenant, elle ne peut pas. Elle se sent toute chose à cause de lui. Il continue.
Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois que vous êtes troublée.
Elle lui répond.
C'est-à-dire que je suis surprise. Je ne m'attendais pas. À ça, quoi? Un si grand honneur?
Le marquis lui dit, « Oh, c'est moi qui suis honoré, si vous acceptez. »
Je vais réfléchir en paix, et puis je vais en parler à mes parents.
Bien entendu, cela est normal.
Terminons tranquillement notre goûter.
Tout en mangeant, Pauline voit assise en face d'elle à une table près de la leur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, blond, beau comme un dieu. Il ne cesse de la regarder, et elle le regarde tristement, en se disant qu'elle va sacrifier la joie d'avoir un beau jeune homme pour l'argent d'un vieux. Cela lui fait mal. Elle a affreusement envie de faire l'amour avec le jeune homme. Une fois qu'elle ait fini son gâteau, elle lui dit, « Pardonnez-moi, mais il est temps que je parte. »«
Oui, bien sûr, je vous accompagne. »« Non, merci. »
Ils se lèvent tous deux, la raccompagnent jusqu'à la sortie du salon. Avant qu'elle ne parte, il lui dit,
« Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bien voulu m'écouter. »
Elle lui dit, « Non, c'est moi qui vous remercie. » Et juste au moment où elle se retourne pour s'éloigner, elle voit que le jeune homme qui la regardait va aussi sortir.
Sortit l'hôtel sur le trottoir,
Elle attend le jeune homme. Il sort. Leurs regards se croisent. Elle lui sourit et se met en marche. Il marche d'un pas régulier. Ni trop vite, ni trop lentement, pour que le jeune homme puisse la suivre. Elle sait qu'il la suit. Elle a le corps qui bat. Elle a chaud. Elle se moque de ce qu'on va penser d'elle. Elle se dit qu'elle peut bien se payer ce petit plaisir. Les deux frères ne semblent plus s'occuper d'elle. Puis elle se dit, il faut que je trouve un endroit, pas trop loin, pour qu'il ne se décourage pas. Où aller, mon Dieu? Peut-être ne se suit-il plus? Elle tourne la tête et le voit. Elle panique. Il faut absolument que je trouve un endroit. Arrivée à un tournant, elle ne sait plus où aller. Faut-il traverser? Aller droit? Elle hésite. Tout à coup, elle se voit pris par le bras et menée délicatement. Elle regarde, c'est le jeune homme qui la regarde. Il se sourit. Le jeune homme la fait entrer dans un petit immeuble cossu. Il monte jusqu'au premier étage et là, il va ouvrir la porte de l'appartement.
Entrez. Elle entre.
Une fois que la porte est fermée derrière lui, il la prend dans ses bras et l'embrasse. Elle se laisse embrasser. Elle se laisse envahir par la chaleur, la douceur de ce jeune homme. Ses mains la caressent. Puis, il lui enlève son manteau et son chapeau qu'il dépose sur une chaise. Et se déshabille aussi. Ensuite, il la prend dans ses bras et la dépose sur le lit. Là, il la couvre de baisers et tout en la caressant, il la déshabille lentement. Ensuite, il se déshabille. Elle ne veut pas fermer les yeux. Elle veut tout voir. Si elle se marie, elle n'aura pas souvent la chance d'avoir un beau garçon dans sa couche. Elle se donne à lui pleinement. Ses mains le caressent, une peau douce et chaude. Une heure plus tard, après, il se réveille. Il est déjà tard. Il n'a pas le temps de rester plus longtemps. Ça lui est pénible de sortir de ses bras, mais il le faut bien. Il était surpris. Tu pars déjà? Oui, ma famille. Il la laisse sortir du lit. Faut habiller, lui demande. Nous nous reverrons. Je ne sais pas. C'est ton grand-père qui te surveille. Elle lui dit. Oui, et je vais me marier. Il est surpris. Elle l'embrasse sur la joue. Elle lui dit. C'est pour cela que j'ai voulu passer un moment avec un beau garçon. Tu comprends? En me mariant, je dis adieu à beaucoup de choses. Je sacrifie la joie d'avoir quelqu'un d'agréable dans mon lit. Il lui demande, parce que ton mari, elle lui dit, ce sera celui que tu appelles mon grand-père. Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin d'argent et de liberté. Alors tu comprends, Lorsque je t'ai vu, j'ai envie de ta jeunesse. J'avais l'impression de faire un tel sacrifice en me donnant à ce vieux. Je disais adieu à des jeunes gens comme toi. Il lui dit en le prenant dans ses bras, « Tu n'as qu'à refuser et te marier avec moi ?» Elle soupire et lui demande, « Tu as de l'argent ?»« Non, mais plus tard, parce que je veux me marier avec un homme riche, c'est pour me libérer d'un vieux dégoûtant qui me fait faire des choses. Comment ?» Elle lui dit, « Parce que mon pauvre ami, j'aime l'opium et que cela coûte cher. Alors un docteur m'en procure en échange de certaines choses que je dois faire, que je dois lui faire. Et comme cela me dégoûte, je veux le laisser tomber. Et pour cela, il faut beaucoup d'argent pour l'opium. Tu es toujours d'accord pour m'épouser avec toutes mes histoires ?» Le jeune homme tout parle et se dégage et lui dit, vous voyez bien que je n'ai que cette solution. Je ne vous en veux pas, je comprends. Elle sourit et lui dit, merci, vous avez été un rayon de soleil à ma nuit. Vous êtes merveilleusement beau. Et elle l'embrasse, puis ouvre la porte. Non, ne m'accompagnez pas. Et elle s'en va. Arrivée chez elle, chez ses parents, elle va directement au salon parler à sa mère qui est assise à broder. Elle s'assoit près d'elle et lui parle de sa demande en mariage. La mère lui demande, « Qu'en penses-tu ? Je crois que je vais accepter. Réfléchis bien, ma fille. » J'ai réfléchi. Mais l'âge ne te gêne pas ? Non, mère. Et puis on se marie en ne pensant pas à la différence d'âge. Pourquoi se marie-t-on ? Pour faire une situation. La mère lui dit. Et être heureux ? Oui, bien sûr. Mais le bonheur ne se trouve pas de la même façon. C'est suivant les personnes. La mère soupire et lui dit. Oui. Je vois, tu as l'esprit pratique. C'est peut-être mieux. Cela évite de faire des bêtises. Tu fais ce que tu veux. Tu peux te marier avec cet homme. Je ne dis pas non. Car du point de vue familial, ce n'est pas une mésalliance. C'est un très bon parti qui a du bien. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 31e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.